11h01 dans le Point de Max à Boulevard 102. Encore une belle heure à passer ensemble. Pascal CV va venir faire son tour en fin d'émission. Misha Hurstwill aussi va passer nous voir dans une trentaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Puis je dois dire que le sujet d'aujourd'hui, je le trouve drôlement intéressant. Tu sais, c'est... Il y a des questions des fois qui viennent naturellement puis qui t'intriguent. Puis quand tu regardes des films, là, puis qu'il y a des scènes d'intimité entre différents individus, on dirait que tu te poses plein de questions. Puis là, aujourd'hui, Audrey, tu nous as trouvé quelqu'un qui va pouvoir répondre à ces questions-là.
Ça fait des mois et des mois que j'ai ça en tête parce que je me souviens un moment, Max, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, quand L'Empereur était sorti. Tu sais, la série avec le chum de Marie-Pierre Morin, là, où c'est un gars qui... On parle d'agression sexuelle là-dedans. Là. On parle de consentement, on parle d'abus de pouvoir. On parle... C'est vraiment une série qui est lourde. Puis j'avais essayé de parler avec un ou une coordonnatrice d'intimité.
C'est de même qu'on appelle ça.
Oui, de plateau. Quelqu'un qui est sur le plateau puis qui gère justement ces scènes-là. Mais on dirait que ça commence à émerger ce métier-là. C'est pas tous les plateaux qui acceptent d'en avoir un ou une. C'est pas partout non plus comme ça dans le monde. Fait qu'il y a plein de questions qui viennent parce que j'avais tenté de parler avec quelqu'un qui finalement avait comme répondu à moitié à mes questions. Tu trouvais que même cette personne-là était comme pas certaine. Là. On commençait. Et là, je suis tombée sur un compte la semaine passée. Celui de Marie Castel, qui est en certification en ce moment, justement, pour être coordonnatrice d'intimité, puis elle tremble déjà là-dedans, là, sur les plateaux de télé, cinéma, au théâtre. Puis je me suis mis à écouter un peu les capsules qu'elle faisait. Et puis elle explique comment ça se passe. Elle parle des dessous, elle analyse des scènes de films pour expliquer exactement comment ça a été fait. Puis moi, je suis totalement passionnée de ça, justement, en partant tout ce qui est dessous de cinéma. Puis je me suis dit, hey, mon Dieu, on prend la porte. Marie, elle a été 3 ans à Montréal. Là, elle est retournée à Paris, justement, pour exercer son métier. Fait qu'on va lui ouvrir l'open mic ce matin. Question qu'elle puisse nous amener un peu dans son univers. Marie, bon matin.
Bon matin. Merci Audrey. Merci Max pour l'invitation.
Vraiment contente que tu puisses venir nous parler de ça. On a du temps en plus pour pouvoir décortiquer le métier. Si vous avez des questions, 88-971-1021, vous vous gênez
pas. Le bon matin, était-tu approprié?
Ah non, c'est vrai, ouais, t'es à Paris, ça, toi. Hein? Bonne fin d'après-midi.
C'est fin d'après-midi.
Peut-être commencer pour les gens qui ne connaissent pas justement ce métier-là. Peut-être nous l'expliquer, Marie, parce que j'ai tenté de le faire dans mes mots, mais t'es pas mal mieux placée que moi pour le faire. Là.
Oui, alors les coordinatrices d'intimité, c'est des chorégraphes, des porte-paroles pour les actrices et ils jouent un rôle d'intermédiaire entre les actrices et les productions pour les scènes qui impliquent de l'intimité. Donc l'intimité, c'est quelque chose qui n'est pas... Il n'est pas définissable très facilement. Il y a des choses qui sont très intimes pour certaines personnes et qui, pour d'autres, le sont moins. Mmh. Mais on va généralement inclure tout ce qui est nudité ou forte exposition, les scènes de sexualité simulée et tout ce qui est contact physique, intime ou sexualisé. Donc nous, l'idée, c'est de faire rencontrer la vision artistique de la réalisatrice et les limites des actrices en respectant certains standards.
Je vais poser la question que tout le monde se pose au moins une fois. Ça arrive-tu, Marie, qu'ils le font pour vrai?
Ça n'arrive plus. En tout cas, aujourd'hui, si les acteurs font pour vrai, c'est considéré comme de la pornographie.
Oh, okay.
Et à l'époque, sur des films qui n'étaient pas considérés comme de la pornographie, il n'y avait pas du coup de standards vraiment comme on a aujourd'hui, de protection, même de choses à mettre entre les actrices. Et parfois, il y avait vraiment des contacts génitaux, mais c'était quand même simulé, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas vraiment avoir d'insertion ou de choses comme ça.
À quel moment, toi, ça arrivait finalement? Là. On peut dire qu'on n'est pas fou de penser qu'à un moment donné, réellement, il y avait des relations. Là.
Non, en vrai, ça n'arrivait pas. C'était très anecdotique. Je dirais juste que les actrices n'étaient pas très protégées.
OK.
Mais l'intention était de simuler quand même.
Puis à quel moment un coordonnateur ou une coordonnatrice d'intimité entre? Est-ce que c'est pendant l'écriture? Est-ce que c'est pendant les répétitions, le tournage?
Alors, ça dépend. Il y a des consoeurs qui participent au script. On peut avoir cette vision scénaristique et aider, notamment quand on parle de relations intimes entre des personnages queer, racisés. Dans ce cas-là, c'est cool d'avoir un ou une coordinatrice d'intimité queer ou racisée qui va vraiment amener une vision réaliste et permettre à la production de s'éloigner de clichés. Maintenant, la plupart du temps, on est appelé en pré-production, c'est-à-dire avant le tournage. Et c'est là, nous, que la plupart de notre travail se fait, parce que notre travail, c'est de préparer justement ces scènes-là avec beaucoup d'attention, chose que les réalisateuristes n'ont pas forcément le temps de faire. Et si on est appelé dernier moment sur un tournage, moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Je sais que c'est quelque chose qu'on essaye de pas faire si on est appelé au dernier moment, parce que c'est généralement que les choses se passent mal, que ça a été mal préparé et on s'embarque dans un projet qui est déjà très très bancal.
Quand il y a des scènes justement bon, de sexualité dans des films, dans des séries, comment on fonctionne? C'est quoi la préparation? Y a-t-il comme des pratiques qui sont vraiment faites seulement avec toi, mettons avec un coordonnateur, une coordonnatrice d'intimité pour réviser la scène plusieurs fois pour s'assurer que tout le monde est à l'aise? Comment amène-nous dans ton monde un peu?
Ouais, alors d'abord on a des calls en individuel avec le ou la réal. Donc comme je disais, on a la vision, on voit quelle position, quel type de nudité le réal envisage. Ensuite, on va voir les actrices en individuel. Donc là, on leur explique le rôle, on leur explique la scène. C'est le moment où on peut avoir leurs limites préliminaires, limites qui bien sûr peuvent changer. C'est le principe du consentement, c'est réversible. Et on s'assure que pour eux, le message est très clair, que nous, on est là pour défendre leurs limites et faire porter leur voix. Ensuite, on fait des répétitions si on a de la chance. Moi, je préfère toujours travailler avec des répétitions plutôt que de bloquer la scène le jour même sur le plateau, parce que c'est travailler dans l'urgence, c'est vraiment pas quelque chose qui va faciliter l'expression des limites. Donc on fait des répétitions. Les répétitions, ça se passe généralement habillé, ça se passe généralement de manière très incrémentale, où on ajoute les éléments de chorégraphie petit à petit, en fonction de comment les actrices se sentent. Et le jour où on arrive sur le tournage, normalement, les actrices savent quels éléments de costume ils auront, parce que parfois, ils ont l'air nus, mais ils ne le sont pas. Donc, quels éléments de costume ils auront, quelle scène ils vont faire dans la journée et qu'est-ce qui va être mis en place pour que ça se passe de manière la plus confidentielle et confortable possible.
Mais le consentement, ils peuvent le retirer jusqu'à dernière minute. Fait que, mettons, c'est jour de tournage, c'est l'heure de faire la scène, ils peuvent tout foutre en l'air, puis on réécrit, là.
Si par exemple au dernier moment leur consentement est retiré, moi mon rôle ça va être non pas de discuter ce consentement, cette limite, bien sûr que non, mais ça va être au moins de comprendre qu'est-ce qui fait que ce consentement est retiré. Est-ce que la personne ne veut plus du tout faire la scène, ou est-ce que c'est juste un élément de la scène qui la gêne? Dans ce cas-là, on peut ajuster. Si vraiment la personne ne veut plus du tout faire la scène, bien sûr, on ne la forcera pas. On peut voir s'il y a une manière de faire la scène qui lui plairait. Sinon, généralement dans les contrats, les productions se gardent le droit de, et ça c'est aussi dans les guidelines, pardon, les lignes directrices de l'Union des acteurs américains, qui fait un peu loi sur le métier dans le monde entier. On a possibilité de prendre une doublure si l'acteur Reese retire son consentement au dernier moment. Une doublure qui donne le même niveau de nudité ou de pratique que ce qui avait été dans
Entendu
le
au départ.
contrat, entendu dans le contrat de l'acteur.
Une autre question, j'ai l'impression, qui est assez populaire chez les gens des fois qui regardent des films, des séries, puis là, on arrive aux scènes en question, puis t'as un peu vendu de la mèche, mais sont-tu tout nu pour vrai? Puis là, tu me disais qu'il y avait des fois des... Il y a des petites techniques
Il y a
qui
des
existent,
prothèses.
là, ouais.
Oui, il y a plein de techniques. En fait, si vous voyez pas une partie intime à l'écran, donc par partie intime, on entend chez les femmes la poitrine et l'avant et l'arrière du pubis, et chez les femmes juste l'avant et l'arrière du pubis. S'il y a des parties intimes qui ne sont pas visibles à la caméra, généralement, c'est que sur le plateau, elles sont couvertes. Et ce, même si l'acteur ou l'actrice dit non, mais moi je suis super à l'aise, je peux faire ça tout nu, il n'y a pas de souci. En fait, on est aussi là pour expliquer que on couvre l'acteur ou l'actrice, non pas, enfin, pas que pour elle en fait. On est aussi là pour mettre une ambiance professionnelle pour tout le monde. Les techniciens aussi, ils sont là sur une journée de travail et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec de la nudité, voire de la nudité toute la journée. Donc voilà, il y a des strings sans bretelles, enfin il y a toute une panoplie de choses qui permet de masquer les parties intimes des actrices.
Puis ça tient bien, c'est pas un enjeu, me semble. J'ai l'impression qu'il y a une limite dans le mouvement, là.
Ouais, ça peut être un enjeu, c'est une bonne question. Nous, on a des tapes de couleur chair assez qui tiennent assez bien, mais on fait en sorte de bien les renforcer sur les parties intimes. Puis on prévient les actrices que généralement il faut raser cette partie-là, pas forcément de très très près, mais au moins un petit trim à l'endroit où on va
Pour que
coller,
ça
quoi.
colle, oui. Est-ce que vous les
Ouais.
aidez à les installer, que ce soit les prothèses ou cash, ou ils doivent le faire eux-mêmes?
Ça arrive qu'on a dit, ah, ça dépend vraiment des cas. Ça peut être le ou la costumière qui aide, parce qu'il y a généralement déjà cette relation d'habillage avec l'actrice. Ça peut être aussi le ou la corde d'intimité qui s'en occupe. On peut aussi guider à travers la porte en parlant. On peut guider la personne pour aider à mettre, ou on peut juste donner des instructions à l'avance et la personne se débrouille toute seule. Mais ça peut être un peu étonnant la première fois pour les actrices de le mettre.
Je reste dans la catégorie des questions que j'ai l'impression que tout le monde se pose en voyant une scène du genre. Tu sais, dans les films, les séries, des fois, il y a de très belles femmes, par exemple. Et là, je me mets à la place de l'homme en
Oh, tu
question.
vas parler de Sidney Sweeney, c'est ça?
Ben, j'allais nommer personne, mais on peut la nommer. Mettons que moi, je suis un homme acteur et que j'ai Sidney Sweeney sous moi, là. Et ça se peut qu'il y ait des réactions au niveau du bas du corps. Est-ce que ça, des fois, ça crée des gens, tu sais, je veux dire, c'est humain, c'est naturel, c'est, et si elle te tue, elle va le
Ça
sentir.
crée-tu un malaise?
Ouais, genre.
Ouais, c'est une inquiétude qui revient souvent chez les acteurs. Nous, on va parler de réaction vasculaire qui est tout à fait naturelle en fait, et on va dédramatiser cette réaction. Réaction qui peut être aussi une réaction sur les corps féminins, les personnes à vulve, qui peut être de leur côté plus une réaction avec du liquide. Et ça, en fait. Bah, tout simplement, on va prendre une pause si ça arrive et on prévient les acteurs à l'avance qu'ils peuvent faire un signe. Moi, généralement, j'ai un signe particulier pour ce cas de figure et dans ce cas-là, je sais que bah, je prétexte une pause pour raccord ou quoi et on laisse l'acteur prendre une pause. C'est vraiment pas une situation idéale pour se concentrer sur son jeu d'être comme ça en érection. Donc,
Mais c'est sûr,
tout à fait normal.
j'ai comme une question complémentaire, Marie, parce que je me suis toujours demandé justement si les acteurs devenaient excités pour vrai dans la mesure où là, il y a comme une dualité entre ce que tu ressens vraiment puis le jeu. Mais est-ce que des fois, c'est nécessaire que ça en vienne là quand tu as une scène, mettons, qui est super intense, qui est... Là, moi, je suis zéro actrice, là. J'ai pas un once de talent d'actrice en moi.
Dans le sens où ça peut amener
Mais...
du
Ben c'est
naturel.
ça peut amener du naturel, tu sais, puis on n'est pas fait en bois comme humain. Fait que est-ce que c'est comme une entente qui vient entre les acteurs de hey, c'est pas grave si ça va là, ou on évite ça?
Les coordinatrices d'intimité préfèrent vraiment dissocier l'acteur du personnage parce que en fait c'est comme ça qu'on arrive à des moments gênants. On préfère justement désexualiser tout le processus et vraiment insister sur le fait que les acteurs sont là pour faire une chorégraphie avec leurs collègues. Les personnages, eux, sont en train peut-être de passer un très bon moment, mais ce ne sont pas les mêmes personnes.
OK.
Et moi, je trouve ça très important d'empêcher cette ligne d'être franchie entre les deux. Et pour ça, on a toutes nos compétences de chorégraphie. Donc, ce qu'on fait, c'est que la chorégraphie ne repose pas sur les acteurs. On leur demande pas d'aller puiser dans leur expérience personnelle pour créer la scène. Et on leur propose pas mal de mouvements. C'est généralement assez collaboratif, mais on est là aussi pour proposer du mouvement et voilà, faire en sorte que ça soit pas bon, bah allez-y, improvisez, puis on verra ce qui sort. Non, c'est plus quelque chose de prévu dans ces cas-là.
Fait que
Et autre chose.
les gens savent
Ouais.
où mettre leurs mains, savent quand embrasser, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire.
Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément la personne qui prévoit tous les détails de ce qui se passe, mais en tout cas, on leur offre un espace où c'est pas forcément à eux de le faire. C'est très important.
J'ai envie qu'on parle des scènes peut-être un peu plus négatives.
Ouais.
On se le cachera pas, il y a plein de séries où il y a de ces moments-là. Dans les plus connues, Game of Thrones, je parle au Québec ici, Fugueuse. Fugueuse, je ne sais pas si tu connais, Marie, mais Fugueuse,
Non.
c'est une série où il y a la jeune femme qui se ramasse entre les mains d'un pimp, exploitation sexuelle. On voit des scènes qui sont franchement difficiles à regarder, qui sont franchement réelles aussi. Puis tu te demandes comment ça se passe sur un plateau. Est-ce que toute l'équipe est là? Est-ce qu'il y a une partie de l'équipe qui quitte? Tu sais, il y a des scènes de viol collectif. Fait que je me demande vraiment, ben un, est-ce que la coordonnatrice d'intimité devrait pas être une obligation dans ces cas-là? Mais deux, comment on fonctionne avec les scènes d'agression? Parce que ça doit pas être la même ambiance qu'une scène amoureuse, là.
Ben, les scènes d'agression, il y a une vigilance toute particulière à avoir parce que on ne sait pas qu'est-ce que les personnes qui sont dans la salle ont vécu dans leur vie et ça peut faire naître, enfin ça peut faire ressurgir des traumatismes. Et dans ce cas-là, on ne peut pas le prévoir. Il faut être capable, en tout cas, de s'occuper d'une personne qui est en retour traumatique. Donc nous, on est formés à ça. On n'est pas des professionnels de la santé mentale, mais en tout cas, on est capable de gérer une crise et de les orienter vers des professionnels si besoin. Et oui, c'est tout à fait, c'est encore plus nécessaire d'avoir quelqu'un, une coordinatrice d'intimité sur ce genre de scène, parce que, bah en fait, si ça n'a pas l'air cadré, ça peut être extrêmement malaisant pour tous les techniciens. Tu parlais de Game of Thrones, j'ai justement fait une vidéo sur la scène avec Ramsay et Sansa, qui apparemment est très très difficile pour l'acteur à jouer, parce qu'en fait c'est hyper dur de jouer un agresseur. Et ça, on l'envisage rarement, on comprend très facilement que c'est dur de jouer une personne agressée, mais jouer une personne agresseur, il y a quelque chose d'assez compliqué à se voir faire des choses comme ça, à s'autoriser à faire certains gestes. Et c'est pour ça que nous, on est là pour mapper, pour cartographier le corps aussi des deux partenaires et savoir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour que le personnage, quand il fait les gestes, il ait assez d'assurance pour jouer vrai, quoi.
Ça doit être excessivement difficile. Est-ce que des fois, il y a des acteurs qui ont besoin de pause, de parler après ces scènes-là, de souffler un peu?
Oui, carrément. Moi, c'est ça m'est pas encore. J'ai pas encore travaillé sur. J'ai travaillé sur des scènes de violence, mais pas des scènes à ce point de violence
D'agression sexuelle.
collective, agression sexuelle, comme ça. Je dirais que oui, c'est possible que les acteurs aient besoin. Faut aussi se dire que les acteurs sont formés à dire oui, sont formés à accepter les propositions qu'on leur donne et ils sont pas tant formaté à venir chercher de l'aide. Donc c'est aussi pour ça que nous, notre attitude doit être très ouverte et présenter aussi les possibilités qu'il y a. Et particulièrement à la fin d'une scène de violence, on peut proposer une activité de dépersonnification où l'acteur ou l'actrice va venir dire ce qu'elle a fait aujourd'hui en tant qu'est-ce que son personnage a vécu aujourd'hui et qu'est-ce que lui ou elle en tant qu'actrice a fait aujourd'hui. Donc ça peut être en tant que Monsieur X, aujourd'hui j'ai agressé telle femme dans cette scène-là, j'ai été violent, etc. Mais en tant que Monsieur acteur A, j'ai suivi une chorégraphie, j'ai écouté les limites de ma partenaire,
Je comprends.
Bon, c'est ça, j'ai suivi des limites de ma partenaire, j'ai pris des pauses et aujourd'hui, et la journée est finie et je peux rentrer chez moi.
Ça doit te ramener au fait que c'est ça, t'as rien fait de mal en réalité, t'as juste exercé ton métier, là.
C'est ça remet la ligne.
Des fois, on regarde des films, des séries, puis là, il y a des scènes intimes, puis tu dis, c'était-tu vraiment nécessaire? Tu sais, ça ajoute rien à l'histoire, c'est là, mais on se demande un peu pourquoi c'est là, à part que ça attire le regard, ou je sais pas. Est-ce que des fois, en tant que coordonnatrice d'intimité, ça peut faire partie de ton rôle, c'est aussi un peu de dire aux gens qui s'occupent de cette série, ouais, pas sûr que cette
Pas
scène-là
nécessaire.
apporte autant quelque chose?
Oui, 100%, ça fait partie du rôle. Faut savoir que le cinéma a un historique organisationnel, très masculin et assez patriarcal. Ce qui fait que dans la théorie du male gaze, donc le regard masculin, le cinéma a été créé, pensé, produit par des hommes et pour des hommes. Et souvent, ça a résulté en une recherche de plaisir visuel. Donc, on a créé des scènes, beaucoup de scènes d'intimité pour le plaisir des yeux supposés masculins. Donc, avec des corps de femmes découpés, pas découpés avec du sang, mais découpés avec la caméra, donc avec le cadre. Donc, on va montrer une poitrine, on va montrer des fesses. Et en fait, ces plans-là servent juste à faire plaisir aux yeux, à exciter le spectateur et pas à faire comprendre quelque chose du personnage au spectateur. On a vraiment des femmes qui ont été objectifiées pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous, on apporte un contre-regard, surtout qu'on est majoritairement des femmes et que c'est un métier qui est ancré dans le féminisme.
Marie, je vois le temps filer, puis j'ai envie de te demander. Présentement, nous ici au Québec, il y a une série qui fait fureur, puis pas juste au Québec, là, Heated Rivalry, où il y a une romance entre deux hommes. Est-ce que c'est différent de faire de la coordination d'une scène homme-homme, de femme-femme, de homme-femme, où les sexes n'ont aucun rapport rendu là, c'est le même principe?
C'est le même principe, c'est juste les organes génitaux qui changent et le fait que la poitrine des hommes n'est pas sexualisée. Donc, au niveau des cadrages avec des hommes, c'est souvent assez facilité parce que si un homme, il y a moins de sujets sur le torse
Il y a moins de
chez
choses
les
à
hommes, même si.
cacher.
C'est ça, même si parfois il y a des acteurs qui veulent pas montrer leur torse et c'est tout à fait OK et on le prend en compte, mais généralement il y a moins de sujets. Donc voilà. Après, ouais, je dirais que la différence de faire des scènes queer, de scènes hétérosexuelles, c'est que aussi en tant que coordo, nous on essaye de soit apporter notre propre regard si on fait partie de ces communautés-là, soit d'encourager pour prendre quelqu'un, un certain consultant, des consultants culturels qui vont pouvoir ajuster le regard, comme j'en parlais tout à l'heure.
Marie, j'ai appris cette semaine qu'il paraît que des fois, les femmes, les hommes vont demander des prothèses pour être plus à l'aise nus. Par exemple, des faux seins, des actrices qui n'en auraient pas, qui se font mettre des prothèses pour jouer leur scène. Même chose pour l'organe génital de l'homme. Est-ce qu'on voit ça souvent?
Moi personnellement, j'ai jamais vu ça sur un de mes projets, mais je débute vraiment, donc Oui, ça arrive, mais je ne pourrais pas vraiment te dire. Une chose que je peux te dire, c'est que, par exemple, si vous voyez à la télévision un pénis en érection, ça ne sera, si c'est un film récent en tout cas, ce sera pas le pénis de l'acteur.
Ok, c'est une
Et c'est
prothèse.
interdit de demander à un acteur de jouer avec une érection. Donc voilà,
Ah, je
on
trouve ça
utilise des
intéressant.
prothèses dans ces cas-là.
Marie Castel, je te trouve fascinante. Si jamais les gens ont envie de voir un peu plus de ton contenu, t'es super le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre exactement?
Merci. C'est sur Instagram, in the mood for consent. Je sais que c'est pas très loi 101, mais
C'est
c'est
plus
une référence
international.
cinématographique. Voilà,
Voilà.
c'est ça.
In the mood for
International.
consent. Donc, Marie
Voilà.
Castel, qui est en certification pour être coordonnatrice d'intimité sur les plateaux de télé, de cinéma. Merci énormément d'avoir
Merci.
pris le temps avec nous, hein.
Merci à vous, c'était vraiment le fun.
Bye bye. Au retour, Misha Earswild, qui est géophysicienne, qui publie aujourd'hui dans Le Devoir un texte sous le titre de La géothermie, angle mort de la transition énergétique québécoise. C'est intéressant de voir que, bon, c'est un domaine qu'on connaît peut-être pas. T'sais, des fois, on parle de, je sais pas moi, d'énergie via l'éolien au Québec ou l'énergie nucléaire. Mais c'est possible d'aller chercher de la chaleur dans la terre. Puis là, avec ça, on pourrait se faire des serres puis faire pousser nos tomates ici en plein hiver à place d'acheter des tomates américaines alors qu'on essaye d'avoir plus de souveraineté alimentaire. Fait que bref, c'est un texte que j'ai trouvé super intéressant. Et Michel Swill vient nous en parler. Dans les prochaines minutes, vous écoutez Le Point de Max à Boulevard.